La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury. Texte lu par Cécile Béluard. Le gui sacré. Les druides ne se bornaient pas à accomplir des sacrifices mystérieux dans les profondeurs de leur forêt, où personne ne pouvait pénétrer qu'après avoir subi des épreuves assez semblables à celles que les mages imposaient à leurs initiés avant de les admettre au culte secret du dieu Mithra. À l'aide des cérémonies dont ils s'environnaient, ils passaient généralement pour des savants, des astronomes, des médecins surtout, que les Gaulois de quelque classe qu'ils fussent venaient consulter avec autant de respect que de confiance. Leur science consistait surtout à observer les phénomènes de la nature, comme la pluie, les vents, les orages, les variations des saisons, en se livrant le plus souvent à des prétendues pratiques magiques, à l'aide desquelles ils assuraient pronostiquer l'avenir et découvrir les trésors cachés. Comme astronomes, les druides, à l'exemple des anciens chaldéens, étudiaient les mouvements des corps célestes. Ils observaient soigneusement le cours des astres, l'apparition et la disparition des étoiles sur l'horizon, et surtout la croissance et la décroissance de la lune, parce que c'était sur la marche de cet astre qu'ils réglaient le commencement de chaque mois et de chaque année. Les fêtes qu'ils célébraient avaient toujours lieu sous l'invocation de la lune, et jamais les druides ou les druidesses n'accomplissaient un sacrifice sans tenir dans leurs mains l'image d'un croissant. Enfin, ils avaient enseigné au peuple celtique l'usage de mesurer le temps par la nuit et non par le jour, comme nous le faisons aujourd'hui. Quant à leurs connaissances médicales, elles se bornaient le plus souvent à l'emploi de certaines plantes auxquelles ils attribuaient, presque toujours avec exagération, la propriété de guérir plusieurs maladies. Quelques-unes de ces plantes ont en effet, comme médicaments, quelques valeurs vérifiées par l'expérience. Mais les druides affirmaient que la guérison des malades était infaillible lorsqu'elle avait été cueillie avec de certaines pratiques qu'ils enseignaient à leurs disciples. Tantôt, il fallait, pour utiliser l'emploi d'une plante appelée sélage, que celui qui l'arrachait de terre fût vêtu de blanc, qu'il eût les pieds soigneusement lavés et qu'il se hâta de l'envelopper dans un lage neuf. Tantôt, pour obtenir un effet salutaire de l'usage d'une autre plante appelée jusquiame, en cas de maladie ou même pour faire tomber de la pluie après une longue sécheresse, il fallait que l'on réunît toutes les jeunes filles d'un canton et que la plus jeune d'entre elles, après avoir quitté sa tunique, arrachât la jusquiame jusqu'à la racine avec le petit doigt de la main droite, puis que, l'ayant attaché à son pied par une corde, elle la traîna ainsi jusqu'au plus prochain ruisseau où elle entrait jusqu'au genou. Quelques autres plantes ne devaient être arrachées ou cueillies que de la main gauche. Mais de toutes les plantes qui croissent naturellement dans les forêts et dont les druides enseignaient l'usage à leurs disciples, les plus vénérées étaient la verveine, dont les prêtresses se couronnaient pour leurs cérémonies mystérieuses, et le gui du chêne, arbuste grimpant à fleurs jaunes, qui croît assez rarement sur cette espèce d'arbre, mais que l'on rencontre fréquemment pendant l'hiver sur un certain nombre d'arbres fruitiers ou d'autres espèces. Le culte que les Gaulois rendaient au gui était chaque année l'occasion d'une fête solennelle qui se célébrait le sixième jour de la dernière lune d'hiver, jour où commençait à la fois le nouveau mois et la nouvelle année. C'était un druide, vêtu de sa longue robe blanche, qui montant sur le chêne où le gui sacré avait été découvert, coupait avec une faucille d'or la précieuse racine que d'autres druides, prosternés au pied de l'arbre, recevaient dans un linge blanc avant qu'elle touchât la terre. Cette cérémonie à laquelle assistait toujours une foule considérable et recueillie était suivie du sacrifice de deux taureaux blancs ou de celui d'un sanglier. Les victimes étaient ensuite consumées sur un rocher servant d'autel. Puis, la foule se dispersait en poussant un cri que l'on proférait encore il n'y a pas longtemps dans quelques provinces de France, où les enfants avaient l'habitude de se présenter à la porte de chaque maison pour demander leurs étrennes, en criant de toute leur force « Au gui l'an neuf !» ce qui voulait dire « Salut à la nouvelle année !»